dimanche 10 novembre. Bonne fête Léon et bon réveil, il est 7h. Et les infos avec vous, François Guéroux. Bonjour François.
Bonjour André, bonjour à tous.
Et on peut désormais voir l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire sous un autre jour.
Le centre d'interprétation de l'abbaye a ouvert ses portes hier. Ce n'est pas tout à fait un musée, mais plutôt un lieu qui donne les clés pour comprendre l'édifice. Plus de 100 000 Loiretains recensés dans le cadre d'un grand mémorial en ligne. Les archives départementales ont bouclé ce projet lancé il y a 5 ans pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Plusieurs marches contre l'islamophobie sont organisées aujourd'hui en France, dont l'une à Paris qui divise la gauche. En basket, pas de miracle pour l'OLB, sévèrement battu hier à Monaco.
C'est l'événement culturel de ce week-end dans le Loiret.
L'ouverture du centre d'interprétation de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Lancé il y a 12 ans et un temps controversé, notamment sur le plan architectural, le projet aboutit enfin. Adossé à l'édifice, ce centre est un outil pour mieux comprendre ce qui fait la renommée de l'abbaye de Saint-Benoît. La tour-porche, chef-d'œuvre de l'art roman avec ses sculptures. À l'arrivée, ce n'est pas du tout un musée rébarbatif, mais un lieu avec des vidéos, des maquettes, beaucoup d'éléments intéressants. Actif. Écoutez Jean-Claude Asselin, le vice-président de la communauté de communes du Val-Sully en charge de la culture.
L'idée, c'était quand même d'expliquer à la fois l'architecture de l'abbatiale et aussi la vie des bénédictins, comment ils vivaient. Donc effectivement, c'est toute une négociation qu'il y a eu autour de ça pour à la fois mettre en valeur l'abbatiale et leur vie, sans pour ça affecter leur vie quotidienne.
C'est pour ça que le belvédère tout en haut a une configuration qu'on peut trouver de premier abord un peu particulière.
Oui, alors effectivement, pour préserver leur intimité, je dirais, on a été obligé de mettre du recul de façon à ce qu'on ne puisse pas se pencher et voir chez eux. Ça, c'est un compromis qu'on a adopté avec eux. Bon, on voit quand même pas mal de choses du belvédère. Une vue exceptionnelle qu'on n'a jamais eue. On voit en particulier sur le chevet que l'on ne voit pas normalement, puisqu'il est dans l'enclos monastique.
Propos recueillis par Anne Auger, le centre d'interprétation de l'abbaye de Saint-Benoît a été inauguré hier et il est ouvert gratuitement au public aujourd'hui et demain. Vous pouvez en avoir un aperçu sur notre site francebleu.fr. L'abbaye de Saint-Benoît est l'un des monuments les plus visités du Loiret avec 50 000 visiteurs par an.
Une battue sera organisée ce matin à Givrennes, près de Pithiviers.
Pour tenter de retrouver Adrien Lebel, ce jeune homme de 29 ans qui a disparu dimanche dernier alors qu'il était parti faire son jogging, notamment dans le secteur de Boisne. Les recherches des gendarmes n'ont rien donné et un appel a été lancé sur les réseaux sociaux pour battre la campagne autour du village de Givrennes dont est originaire le jeune homme. Le rendez-vous est à 10h ce matin depuis la place de l'église. Il n'y a toujours pas de train ce week-end sur la ligne Paris-Orléans-Tours en raison de gros travaux de modernisation. Le trafic ne reprendra que demain après-midi à partir de 16h.
Et on célébrera demain, le 11 novembre,
le souvenir de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Et à cette occasion, les archives du Loiret mettent en ligne le résultat d'un énorme travail qui a commencé il y a 5 ans, le grand mémorial du département. Entendez par là le recensement exhaustif de tous les Loiretains qui étaient mobilisables pendant la Grande Guerre. 106 800 hommes nés entre 1867 et 1901. On sait tout désormais sur leur lieu de naissance, leur niveau d'études, leur métier, leur parcours militaire, sachant qu'en moyenne, 1 sur 2 a été mobilisé. Ces données désormais accessibles, vont servir notamment aux historiens. Amandine Comté est directrice adjointe des archives départementales du Loiret.
Ça permet à des historiens de revoir les degrés d'instruction des conscrits, de revoir les métiers des gens, à quoi ça pouvait servir. Par exemple, on voit que pour les boulangers, on va faire des distinctions entre ceux qui savent cuire et ceux qui ne servent à rien. Donc on a des détails comme ça assez amusants dans les registres, qu'on croit amusants au premier abord, mais qui en fait sont vraiment très très utiles, puisque derrière, le boulanger qui sait cuire pourra servir au front, peut-être à donner manger à ses camarades. Donc on a des choses comme ça qui sont vraiment très très utiles. Et puis ça sert évidemment à faire l'histoire d'une famille, de personnes, puisque aujourd'hui on ne sait pas toujours où sont nés ses ancêtres, où est-ce qu'ils ont vécu, etc. Et là, vous tapez simplement un nom de famille sur le grand mémorial et vous avez des chances de retrouver votre ancêtre assez facilement, où qu'il ait vécu et où qu'il ait été enregistré.
Amandine Comté au micro de Patricia Pour. Forêt, ce travail de recensement a été rendu possible grâce à l'implication de 140 bénévoles. Quant à l'adresse de ce site où donc toutes ces données sont disponibles, eh bien la voici, culture.fr, Grand Mémorial.
C'est une marche qui fait polémique aujourd'hui.
Une marche contre l'islamophobie organisée cet après-midi à Paris pour dénoncer le climat de haine qui se développe en France contre les musulmans. Il y a eu l'agression verbale d'une femme voilée par un élu Rassemblement National en Bourgogne, mais aussi plus récemment l'attaque d'une mosquée à Bayonne. Problème, cette marche, elle est initiée par le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, une association que certains accusent d'être proche des frères musulmans, un mouvement intégriste. Résultat, la gauche hésite à participer à cette manifestation, Maxence Lambrecq.
Manuel Valls voyait deux gauches irréconciliables. Elles se font face ici, entre les partisans d'une laïcité ouverte prête à des accommodements et ceux qui craignent les dérives communautaristes. Le PS est sur cette ligne, le sénateur Patrick Kanner.
Cette manifestation du 10 novembre, pour moi, est une manifestation qui a un caractère identitaire. Je ne défile pas pour une religion, ni contre d'ailleurs, quelle qu'elle soit. On ne défile pas avec les mouvements qui, je le pense sincèrement, veulent saper les fondamentaux de notre République et qui souhaitent alimenter les extrémismes au travers de cette manifestation.
Pour éviter cela, justement, il faut y participer, répond le communiste Yann Brossat.
Si on laisse les musulmans seuls face aux attaques auxquelles ils doivent faire face, à ce moment-là, on crée de l'enfermement identitaire. Et donc je pense que pour éviter ça, il faut justement qu'on ait une gauche qui se réveille.
Mais de nombreux communistes, écolos, insoumis refusent d'y aller car les organisateurs dénoncent des lois qu'ils jugent liberticides, celles qui interdisent la burqa dans la rue, le voile à l'école, peu importe qui sera dans le cortège, réplique Yann Brossat.
J'ai participé aux mobilisations pour Charlie Hebdo et il y avait Viktor Orban. Donc si on raisonne de cette manière-là, on ne participe plus à aucune mobilisation.
Les socialistes comptent justement en organiser une autre 100% républicaine à Paris d'ici deux semaines.
Et en attendant, le cortège partira à 13h de la gare du Nord à Paris. D'autres rassemblements du même type sont organisés aujourd'hui à Marseille, Avignon, Amiens notamment.
Les sports et avec en basket, une lourde défaite pour l'OLB.
Les Orléanais n'ont pas pesé lourd à Monaco, défaite 76 à 108. Jamais les Orléanais n'avaient encaissé autant de points en une rencontre cette saison. Au classement à l'issue de cette 8e journée de Jeep Elite, l'OLB est 15e, juste devant son prochain adversaire, le Portel, concurrent direct au maintien que les Orléanais recevront samedi. Le Portel qui a créé la surprise en battant Boulogne-Levallois. En fédéral 2 de rugby, le RCO reçoit Courbevoie cet après-midi. Les Orléanais, avant-dernier de leur poule, affrontent une équipe qui est juste devant eux au classement. Victoire quasi impérative donc pour cette 7e journée. Le coup d'envoi est à 15h au stade des Montées. En football, Guingamp et Ajaccio ont fait match nul un partout hier en match décalé de la 14e journée de Ligue 2. Rappelons que l'USO est lanterne rouge depuis sa défaite contre le Paris FC. En Ligue 1, hier, bonne affaire pour le PSG qui s'est imposé à Brest 2-1. Les Parisiens confortent leur place de leader. À suivre ce soir le choc entre Marseille et Lyon. Et puis en tennis féminin, c'est aujourd'hui la finale de la Fed Cup en Australie. Et la France mène 2-1 contre l'Australie grâce ce matin à l'exploit de la Française Kristina Mladenovic. Elle vient de battre en 3-7 la numéro 1 mondiale Ashley Barty. Il reste à présent à jouer le 4e simple pour s'imposer. Pauline Parmentier va affronter tout à l'heure l'Australienne Ajla Tomljanovic.
francebleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu Orléans est sur francebleu.fr.